France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
C'est une série qui retrace le parcours de jeunes millionnaires avant 30 ans. Non pas des héritiers donc, mais des personnes qui sont devenues riches assez vite et par elles-mêmes. Et je voudrais vous préciser ce qui nous intéresse dans cette série qui prête parfois à des malentendus. Commençons déjà par ce qu'elle n'est pas. L'idée n'est pas de vous raconter des success stories inspirantes, d'ériger ces personnes en modèle à suivre, ni de donner des conseils pour devenir millionnaire, et encore moins de faire la promotion des activités de ces personnes. Comme dans la plupart de nos émissions, on s'intéresse juste à ce que vivent les gens. À leur enfance, aux raisons qui les ont poussés à devenir ce qu'ils ou elles sont, et à la façon dont ils mènent leur existence et dont ils l'appréhendent. Et puis, avec les millionnaires, comme avec de nombreuses personnes qu'on rencontre au pied sur terre, on s'intéresse à l'argent. En avoir ou pas, ça change quand même un peu la vie. Pourquoi les millionnaires ont-ils tellement voulu devenir riches? Qu'est-ce qui les a poussés et à quel prix ont-ils réussi? Sont-ils généreux avec leurs proches, dispendieux avec eux-mêmes? Est-ce qu'ils claquent ou est-ce qu'ils économisent? Est-ce qu'ils profitent ou se sentent au contraire coupables d'être riches? Sont-ils heureux de dépenser ou bien s'avèrent-ils particulièrement radins, toujours dans la peur de perdre leur argent? Bref, quel effet ça fait d'être millionnaire avant 30 ans? Tout de suite, nous sommes avec Jonathan, troisième épisode par Olivia Muller.
Je suis Jonathan Angelov, j'ai 39 ans et je suis entrepreneur. J'ai grandi à Paris, sans papa, d'une mère célibataire qui a immigré de Bulgarie dans les années 70 et qui est venue avec zéro sou dans la poche. Malheureusement, elle a jamais su qui était mon papa, elle a fait un déni de grossesse de plus de 8 mois. Et j'ai une maman qui essaye de se démener, qui est mannequin, puis après une petite agence de mannequinat. Elle travaille beaucoup, mais elle gagne assez peu. Et surtout, elle a beaucoup de travers. C'est-à-dire qu'elle sort, elle boit pas mal, fume beaucoup. Mais elle me donnait beaucoup d'amour. Et moi, je pouvais tout lui raconter. Mes problèmes à l'école, les bagarres dans lesquelles je pouvais finir, mes problèmes de cœur. Elle allait me défendre bec et ongles. Et c'était une lionne, ma mère, quoi. Elle se laissait pas faire. Et nos engueulades, du coup, étaient très, 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 très intenses. La vie, comme ça, entre un jeune et sa maman, parfois, peut être difficile. C'était pas évident pour elle, quoi. Et avoir un gosse un peu con comme moi, c'est pas évident non plus. La place que tenait l'argent dans notre vie avec ma maman était très, très importante. Parce que on parlait d'argent ouvertement. Elle me disait, voilà, là, on n'a pas les moyens de ci, on n'a pas les moyens de ça. Moi, je voulais les Air Max, je pouvais pas. J'avais les chaussures que ma mère allait acheter à l'époque à Tati Barbès. Et j'avais toujours rêvé d'avoir ce Bomber, ce Scott que tous les jeunes avaient avec le scratch. J'ai jamais pu l'avoir. Elle m'en avait acheté un faux, un truc, justement, dans une boutique type Tati, quoi. Elle aimait beaucoup Tati, quoi. C'était horrible. Et l'argent était vraiment prédominant dans les discussions. Et donc, très vite, j'ai aussi appris qu'il fallait gagner de l'argent. Et que... on peut pas avoir une vie où on subit toute sa vie et où chaque centime compte. Je voulais pas ça. Je voulais, comme tous mes copains, pouvoir m'acheter des Kinder Delice ou une canette à l'école. Moi, je me souviens, les gens, quand ils achetaient une canette dans les distributeurs, il y avait ça, dans certaines écoles. Je me disais, waouh, ils sont riches. À 12 ans, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ma maman fait confiance à une personne qui lui en met plein la vue avec des belles voitures, des chauffeurs. Et cette personne lui dit, investissez avec moi, vous allez gagner beaucoup d'argent dans l'art, on va s'associer, etc. Donc elle lui a donné globalement tout ce qu'elle avait. Et cette personne s'est avérée être un escroc et elle a tout perdu, mais vraiment tout perdu. Donc ça, je devais avoir 11 ans à peu près. Et après, ça a été la descente aux enfers. Alcool de manière vachement plus intense, la drogue, et on n'a plus un sou, vraiment. Ça devient compliqué, cette personne la balance aux impôts en disant elle fait de la fraude fiscale, et en effet ma maman n'était pas non plus la plus diligente avec la déclaration des impôts. Elle avait des mannequins à l'époque, beaucoup se faisaient en espèces et tout, et ils lui sont tombés dessus, et puis ça a été, mais vraiment, ça a été un ouragan de problèmes. Et un jour, les huissiers sont venus saisir des choses dans l'appartement. Ils ont vidé les comptes en banque. Bref, tout, ils ont tout pris, tout ce qu'il y avait, tout ce qui était possible de prendre. Et puis, ils m'ont pris aussi, puisqu'ils ont dit... les voisins, à l'école, ils ont vu un peu les conditions de ma maman se dégrader. Tout le monde a prévenu que ça allait pas trop à la maison, puisqu'il y avait des esclandres régulières, vu qu'elle buvait, et c'était un peu le bazar. Et en fait, je me fais placer en famille d'accueil du jour au lendemain, je perds tout. Et là, c'est pas qu'on a plus rien, c'est que il y a plus rien. Quand je me fais placer à 12 ans, ce qui se passe dans ma tête, c'est que je me dis, waouh, je perds mes amis, en plus, je connais la honte, quoi. Et à ce moment-là, tu te dis, mais oh là là, qu'est-ce que je vais devenir? Mais à la fois, je sais pas, j'ai toujours eu une forme d'inconscience et de rêve qui était, ça ira. Et je pense que c'était un mal pour un bien. Évidemment que j'aurais préféré qu'on me laisse chez ma mère, parce qu'on est toujours mieux chez sa mère. Mais c'était plus possible, en fait. Ça m'a permis de voir un environnement différent, d'être dans une famille d'accueil... qui est une famille de la classe moyenne. Et j'avais le temps de penser. J'avais cette chance, en tant qu'enfant, j'avais du temps. Parce qu'en fait, j'étais tout le temps dans les transports. Parce que je partais du 15e arrondissement de Paris et j'allais jusqu'à Sucy-en-Brie, dans la famille d'accueil. Et le trip, c'était quand même... Je partais de chez ma mère. Je marchais jusqu'à Bir Hakeim. J'avais un bon quart d'heure de marche pour prendre la ligne 6. J'allais jusqu'à Charles de Gaulle-Étoile. Je prenais le RER A. Jusqu'à Sucy-en-Brie, et à Sucy-en-Brie, j'arrivais, je prenais un bus, donc je mettais en moyenne 1h30 à 2h. Et pendant ces 2 heures, en fait, à l'époque, t'avais pas de téléphone, et donc en fait, t'étais dans tes pensées. Et moi, je regardais tout, je pensais à plein de choses, je prenais les petits journaux qui étaient gratuits, et à chaque fois que je lisais un succès entrepreneurial ou une entreprise, je me disais, c'est peut-être, je pourrais créer ça, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Et il y avait le film La Haine qui est sorti à peu près à cette époque. Et la grande phrase que disait Mathieu Kassovitz, c'est « Demain, tout ira mieux ». Et je me disais « Mais oui, demain, tout ira mieux ». Mais je suis un enfant, donc j'ai pas beaucoup de pouvoir pour que ça aille mieux. Ça s'est toujours bien passé avec les familles d'accueil. Le problème, c'est que je change tous les ans, pratiquement. La vraie difficulté, c'est les foyers. Les foyers, c'est vraiment violent. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je suis toujours allé à l'école et j'avais toujours peur de louper l'école. Parce que on m'avait inculqué que si j'allais pas à l'école, je finirais SDF. Toute ma vie, j'ai eu peur d'être SDF et j'ai encore peur d'être SDF, tous les jours. Quand je passe sous un pont, ou que je passe dans un endroit qui est un peu confiné, où je pourrais imaginer dormir, j'y pense. Je me dis, si d'un jour j'ai rien, je pourrais venir là. Là, c'est pratique, j'aurais pu me cacher, je mets un carton, je tire une voile, c'est incroyable. Alors que, à aucun moment, j'ai été proche d'être SDF. Mais c'est un truc, c'est une peur qui est ancrée en moi. C'est fou de penser comme ça. Très jeune, je me dis, il faut que je commence à gagner de l'argent. C'est pas possible que je dépende toujours des autres. Donc, à 14 ans, je commence un petit peu à faire des petits jobs de babysitter, de donner des cours... Et à l'âge de 16 ans, âge légal pour commencer à travailler, je prends un job direct, je fais livreur de pizza. Je dois gagner 400-500 euros par mois. Et alors du coup, dès que j'ai cet argent, en fait, j'achète des petits objets. Le plus connu que j'ai fait, on va dire, c'est la bague de Lady Di. Elle est morte quelques années auparavant. Et j'achète une copie sur Internet, sur Alibaba. On est vraiment au début, hein. Tout est écrit en chinois. J'utilise voila.fr, qui était un moteur de recherche qui faisait de la traduction pour tout traduire. Enfin, c'était l'enfer. Et je me fais livrer comme ça des milliers de bagues made in China que j'ai acheté, mais des centimes, quoi. Et un jour, je reçois le paquet qui arrive énorme, tout scotché. Je me souviens, je l'oublierai jamais. Ils avaient intégralement scotché le paquet et à déballer, mais ça avait été l'horreur. Et j'ouvre et je vois les bagues, et franchement, elles étaient de très bonne qualité. C'était vraiment du métal doré. C'était beau, quoi. Et je les mets en vente sur eBay. Et je les vends comme ça, dans le monde entier. Dans le monde entier. Je fais mes petits paquets à la maison. J'achète des enveloppes à bulles et j'envoie. Et là, je gagne quelques milliers d'euros, quoi. Et comme ça, jusqu'à 17, 18 ans, je fais ça. Peut-être pas 18 ans, hein. Un peu avant, j'arrête. Parce que c'est quand même très prenant, quoi. La logistique et tout. Mais j'apprends à gagner de l'argent et je me dis, mais en fait, on peut gagner de l'argent tout seul, quoi. Mais pendant tout ce temps-là, en plus, je suis caissier, je vends des glaces chez Häagen-Dazs, Je suis livreur de journaux à la sortie du métro. Enfin, je fais tout. J'économise. Je fais que économiser. Chaque sou, je l'économise. Vraiment, je vis avec le minimum. À l'âge de 18 ans, en fait, je rencontre Gaëtan, qui devient mon ami, qui lui vient plutôt d'une bonne famille. Je me souviens toujours, quand j'allais chez lui, j'étais trop content parce qu'il y avait des curly et du granini framboise. Et c'est vrai, il avait tous ces biens qui, pour moi, étaient tellement des biens de riches. Et je me souviens, je mettais le granini dans un grand verre, je mettais des glaçons au-dessus et j'avais vraiment l'impression d'être le roi du monde. Mais je découvre chez lui, alors qu'il a vraiment aucun problème financier, une ambition assez impressionnante. Il veut gagner de l'argent, coûte que coûte, quoi. Et il fait plein de trucs, et il essaye plein de trucs. Et ça me donne envie, moi, encore d'aller plus loin, quoi. Et c'est là où, à 19 ans, on se dit, mais attends, on va acheter des chambres de service, et on va commencer à investir dans l'immobilier. On va faire des prêts étudiants. J'ai vraiment fait beaucoup de banques. J'allais d'une banque à l'autre, et je m'organisais pour pas que ça se voit que j'ai plusieurs banques. Ça va relativement vite. Bon, c'est simple, j'achète 2 à 3 chambres de service par an, jusqu'à en avoir 10. Et ça me fait presque 5000 euros par mois de loyer, mais j'ai 21-22 ans à ce moment-là, donc c'est beaucoup d'argent. Mon associé fait pareil de son côté, et on y va à fond. On mutualise nos idées, nos achats, les ouvriers. Et en fait, on se dit, mais en fait, l'argent travaille pour nous, quoi. Et au bout d'un moment, en fait, j'avais tellement de revenus fonciers que j'allais voir les banques, que j'étais un peu hyper bien accueilli, quoi. Je me dis, mais vous gagnez 5000 euros par mois? Je dis, oui, j'ai des investissements, regardez, etc. Et ça plaisait. Et c'est vrai que la première fois que j'ai acheté une chambre de service, je pouvais y passer des heures à regarder ces 7 mètres carrés. Ça faisait 7,5 mètres carrés. Je me sentais bien, je me sentais chez moi. Le fait de posséder ça, c'était pour moi exceptionnel, quoi. Je me voyais sortir de la misère pièce par pièce. Et je me disais, mais waouh, c'est incroyable. Ça, il faut juste le refaire encore et encore. Mais en parallèle de tout ça, moi, je continue, je fais mes études. Je finis quand même à l'ESCP. Et c'est pas parce que j'ai commencé à gagner de l'argent que je me suis lâché sur les dépenses, au contraire. Je suis toujours resté très proche de mes sous. Je m'autorisais pas de plaisir. Mais je suis tellement fier de moi de pas m'être autorisé tous ces plaisirs parce que ça me permet aujourd'hui, ouais, j'ai réussi, ouais, j'ai de l'argent, mais j'ai besoin de rien pour être heureux. Et moi, ça m'a toujours choqué, mes amis qui ont besoin d'un Coca-Cola au déjeuner, qui ont besoin de snacks, qui ont besoin de plein de trucs, de plein de petits goodies qui leur font plaisir, alors que moi, ça m'a jamais procuré aucun plaisir, ces trucs-là. Et vous voyez, là, j'ai ma bouteille d'eau cristalline, là, elle était là tout à l'heure, je bois l'eau la moins chère, mais j'ai aucun sujet. Là où moi, mes potes, ils sont là, moi, je bois que de l'Evian, je bois de l'eau en les bouteilles en verre, je les vois, et qui, certains, ont même moins d'argent que moi, mais ils ont un lifestyle qui est bien supérieur au mien, sur des petites broutilles, quoi. Vraiment, j'économise tout. J'achète la viande la moins chère, j'achète les conserves les moins chères. Alors, c'était pas une bonne stratégie à ce moment-là. Je me rends compte qu'en fait, faut mieux acheter des légumes, ça coûtait moins cher et les couper moi-même. J'ai un petit péché mignon qui commence à se déclarer, c'est les vêtements. Et en fait, c'est une manière de sortir de ma pauvreté, c'est-à-dire de me dire, faut que les gens aussi me reconnaissent quand même. Que les gens se disent, c'est pas un pauvre. Et d'ailleurs, à cette époque, je tombe amoureux d'une marque qui est Ralph Lauren. Parce que je trouvais que ça faisait riche. Je voulais plus être un pauvre. Et donc, ouais, je commence à gagner pas mal d'argent et je me dis, là, j'ai envie d'aller beaucoup plus haut et je vais créer Aircall, une boîte dans la téléphonie d'entreprise qui deviendra, au bout de 6 ans, une des licornes françaises qui fait aujourd'hui plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est de la téléphonie pour les entreprises version cloud. Et là, c'est une ascension très rapide et à la fois très longue et fatigante parce que beaucoup de travail, parce que des nuits sans dormir avec mes associés. Et à ce moment-là, en fait, je vis une épopée de ma vie qui est complètement hallucinante. On part d'une idée simple, basique, révolutionnaire, la téléphonie d'entreprise, à une société qui devient mondiale et qui a une croissance exponentielle. Et en parallèle de tout ça, moi, je continue à investir dans l'immobilier. Chaque sou qui rentre, c'est immobilier. J'investis, j'achète des appartements, des immeubles. En 2018, j'achète mon premier hôtel. J'ai à peine 30 ans. Je fais un 4 étoiles. J'achète pour plus de 200 millions d'euros d'immobilier avec des prêts. Et comme ça, je fais tourner l'argent depuis mes 19 ans. Ouais, c'est ça. et je me fais deux plaisirs. Deux. Qui sont des rêves de gosse que j'exauce. C'est, je m'achète une belle voiture, une Porsche 911, dont je rêvais quand j'étais gosse, que j'avais en Hot Wheels. Pour ceux qui connaissent, 911-997 phase 1, je l'avais acheté 50 000 euros et je l'ai revendu 2 ans plus tard, 50 000 euros. Et je m'achète un bel appartement quand je peux me le permettre. Et aujourd'hui, je ne possède pratiquement rien qui ne me rapporte pas d'argent. Et ma mère avait rien. Et très tôt, je l'aide. Je veux pas la laisser dans la misère. Je lui paye à manger. Je la fais acheter une chambre de service. Et elle me voit un petit peu commencer à créer des choses. Elle voit Aircall. Elle entend un petit peu parler. Elle vient un jour dans les bureaux et c'est une histoire marrante. Elle sait que je fais de la téléphonie pour l'entreprise et elle se trompe d'adresse et elle se retrouve chez le taxiphone juste en bas du bureau. Et elle hurle. Elle dit, où est mon fils? Et elle m'appelle, elle me dit, mais t'es où? Le monsieur, il te connaît pas et tout, il connaît pas Jonathan. Et je lui dis, mais maman, t'es où là? Elle me dit, bah, je suis en bas avec monsieur, je sais plus comment il s'appelait. Il me dit que t'es pas là, tu m'as encore menti. Et là, je lui dis, mais t'es pas à la bonne adresse. Et à l'époque, on était au 42 rue du Faubourg Poissonnière, je crois. Et donc, je la fais monter. Et là, elle rentre dans les bureaux qui étaient magnifiques, dans un immeuble Eiffel somptueux, avec des belles hauteurs sous plafond, des fenêtres immenses. Et elle dit, mais c'est quoi ça? Je dis, bah, maman, c'est ça, les bureaux. C'est ça, Aircall. Mais il me dit, ils sont où les téléphones? Pourquoi il n'y a pas de téléphone et tout? Qu'est-ce que tu fais comme magouille encore? Tu vends des trucs sur Internet? Parce que déjà, à l'époque, quand je vendais les bagues, elle avait l'impression que je vendais de la drogue, quoi. C'était terrible. Et je lui dis, mais non. Elle me dit, mais quoi? Tu vends des téléphones sur Internet? Je dis, mais non. C'est un logiciel. Bon, bref, elle a jamais trop compris. Et ouais, elle voit des choses, mais elle a jamais réussi à se dire que j'allais y arriver, quoi. En fait, elle a tellement souffert dans sa vie qu'elle elle pouvait pas imaginer que j'arrive à m'en sortir, quoi. Parce qu'elle, ça a mal fini. Elle décède très peu de temps après, quelques mois après ça. Et en fait, moi, ce que je lui ai toujours dit à ma mère, c'est que la réussite, c'est pas le matériel, c'est pas l'argent. C'est d'être heureux. Et elle, malheureusement, elle voyait beaucoup l'argent comme une fonction du bonheur. Ouais, l'argent, ça rend heureux. Évidemment que ça rend heureux. Évidemment que c'est plus agréable de vivre dans 200 mètres carrés que dans 8 mètres carrés. C'est pas ce que je dis. Mais moi, mon bonheur, ça a toujours été de faire les choses que j'aime et d'être entouré des gens que j'aime. Moi, demain, je suis avec mes copains dans un bouig-bouig, et ça nous est arrivé récemment avec mes potes d'enfance. On sortait d'un concert d'un rappeur qu'on aime bien, de Rimka, et on allait manger dans un restaurant afghan où, je rigole pas, entrée, plat, dessert, c'était 12 euros. J'étais le plus heureux du monde. J'étais avec mes copains d'enfance. Et d'ailleurs, j'avais mes copains avec qui je sors un peu plus en soirée, avec qui je fais les beaux restos, les belles choses, qui m'écrivaient à ce moment-là, et je leur fais un selfie. Et ils disent, mais qu'est-ce que tu fous là-bas? T'es un malade et tout. Et moi, j'étais, mais les gars, mais je suis super bien. Je suis heureux. Je m'en fous, en fait, moi. J'ai pas besoin de bouffer dans un grand restaurant pour être heureux. Et c'est ce que j'aurais voulu transmettre à ma maman, c'est de lui dire, maman, la recherche unique de l'argent ne peut pas être un objectif de ta vie. En fait, j'aurais voulu qu'elle me voie réussir pour la faire réussir. Et j'aurais voulu tellement lui donner. Parce que c'est ma mère, c'est la seule famille que j'ai, en fait. Et je m'en rends compte aujourd'hui que je suis un vieux sans famille, quoi. Pas de frère, pas de sœur, pas de père, pas de famille. La mort de ma maman, elle provoque quelque chose d'assez violent. Car pour la première fois de ma vie, je me dis, waouh, là, mon vieux, t'es seul, là. Parce que ma maman, c'était quand même ma confidente. Je pouvais tout lui dire. Je pouvais pleurer devant elle parce que j'avais un chagrin d'amour. Je venais chez elle, elle me réconfortait. Quand j'avais de la fièvre, quand j'avais froid, quand j'avais faim, je pouvais passer la voir toujours. Et la porte était toujours ouverte. Et là, à ce moment-là, j'ai plus personne. Et en fait, chaque heure qui passe sans ma mère, je dois l'occuper mentalement pour pas y penser. Et je me dis, pour pas y penser, il faut travailler. Et donc, je me retrouve à parfois rester au bureau jusqu'à 3h, 4h du matin. Rentrer quand je suis épuisé, mais vraiment épuisé. Et repartir le lendemain à 8h. Dormir vraiment le minimum possible pour pas trop rêver, parce que à chaque fois, je rêve d'elle. Je rêve qu'elle est encore vivante. Je rêve que j'ai vidé l'appartement alors qu'elle est encore là. Cauchemar sur cauchemar. Et je me noie dans le travail. Je me découvre une force que je ne connaissais pas. Et je vis une période faste. J'achète mon premier hôtel. J'y vais, je me pose plus de questions. Je me rends compte qu'en fait, pour réussir, faut pas trop se poser de questions. Et Je pense souvent à ma maman parce que dans les mauvais moments, elle me disait toujours des choses. Et elle m'a dit un jour, juste avant de mourir, elle me prend la main et elle dit « N'oublie jamais, Jonathan, que t'as une bonne étoile. Et quand t'es seul ou que tu doutes, regarde le ciel, il y a toujours une étoile qui brille le plus et c'est moi. » Et je le fais souvent. C'est marrant parce que je crois dans le fait que quelqu'un me regarde et me donne la force de continuer. Parce que putain, ça n'a pas été facile, je veux dire. Ça n'a pas été facile, mais ça m'a donné envie de tout péter. Est-ce que l'argent rend heureux? Bah, je vais vous dire honnêtement, non. Est-ce que c'est plus sympa d'avoir de l'argent? Oui. Je pense que c'est pas l'argent qui rend heureux, c'est vraiment la réussite et l'accomplissement de soi-même. Et d'ailleurs, je pense que les gens les plus heureux, parfois, sont les personnes qui en ont le moins. Et je peux vous dire que je pense que depuis que j'ai de l'argent et que depuis que j'ai beaucoup de responsabilités, je dors bien moins bien que quand j'étais jeune et que j'avais pas d'argent. Et moi, j'ai même des copains qui sont issus de très grandes familles, richissimes, mais qui sont malheureux. Ils font rien de leur journée. Ils ont pas d'objectif dans leur vie. Et oui, quand la première fois j'ai mis le pied dans une Porsche que je venais de m'acheter et que j'ai accéléré et que ça m'a fait des frissons, mais j'étais heureux. Je vivais un rêve de gosse. Mais c'est débile. Ouais, je me fais des beaux voyages. Je me permets de me faire 2 mois de vacances par an, au moins. Je vais où j'ai envie d'aller, on va dire. Ça, c'est un vrai plaisir. Mais vous voyez, par exemple, j'ai aucun plaisir à aller dans un bon restaurant, quoi. C'est marrant. Je me retrouve avec des potes dans des super restaurants où ça va nous coûter 200 euros par tête. C'est une honte. Mais j'ai pas l'impression d'avoir mieux mangé que le midi quand je vais au snack pour 10 euros, quoi. J'investis tellement mon argent, moi, dans l'immobilier, qu'en fait, je me retrouve à part avoir une belle voiture, un bel appart et me faire des belles vacances, le reste, honnêtement, j'en profite pas assez. Mais d'ailleurs, il faut que j'en profite plus parce que la vie est courte. Moi, il y a un truc que j'ai vraiment envie de faire dans les années à venir, c'est j'aimerais bien commencer à faire du circuit, parce que j'aime les voitures, j'aime conduire. J'aimerais bien faire du saut en parachute. Ah non, tiens, un truc que j'aime beaucoup faire, c'est du ski. J'ai d'ailleurs, bon, c'est des plaisirs un peu honteux, mais parfois, on se fait déposer en hélicoptère très haut dans la montagne, on redescend. Donc, ouais, c'est cher, ça. Bon, c'est parce que on a la flemme de monter 5-6 heures en rando. C'est un truc de con parce que ça pollue, mais bon, faut parfois aussi un peu se faire plaisir. Et mon appartement, c'était un rêve de gosse. J'ai grandi rue Saint-Charles, dans le 15e arrondissement. Et à la sortie de mon immeuble, je voyais la Tour Eiffel. Et je prenais la ligne 6, souvent. Et je voyais tous ces immeubles qui avaient des vues sur la Tour Eiffel. Et donc, jeune, je me suis dit, j'aimerais bien avoir un appartement face à la Tour Eiffel. Et ça, pour le coup, j'en suis content. Parce que j'ai exaucé un rêve de gosse. C'est bête, quoi. Je suis un gamin qui a pas été éduqué, donc qui a des plaisirs un peu de con, quoi. Parce que bon, une belle voiture, un bel appart, franchement, ça fait un peu pitié, quoi. Mais bon, n'ayant pas eu beaucoup d'éducation, on se rattrape avec ce qu'on a. Toute ma vie, je l'ai consacré à ma réussite et à mon travail. Et c'est cool. Heureusement, j'ai des amis. Et je veux un enfant plus que tout. C'est marrant. Pendant des années, j'en voulais pas. Et maintenant, je pense que le moment est venu pour moi de aussi construire ma famille. Bon, mon enfant, il va apprendre quand même la vie dure, hein. Je vais pas être du tout le papa gâteau qui va les gâter. Je vais faire en sorte qu'il ait un peu la même, les mêmes valeurs que moi. La besogne. Le boulot. Le on se lève tôt. On se couche tard. On travaille plus que les autres. On laisse personne nous marcher sur les pieds. Je veux jamais devenir l'ombre de moi-même, ça veut dire devenir une personne qui a besoin de plein de choses pour être heureux. C'est ma hantise, quoi. Et c'est marrant parce que la semaine dernière, j'avais des copains à dîner à la maison. J'aurais fait le petit dîner pas cher.
C'est quoi ?
Non, mais j'ai acheté du poulet chez le rôtisseur, coupé en quatre. J'ai fait des haricots verts, du riz avec une sauce champignon. En entrée, je leur avais fait une salade frisée avec des lardons. Et c'est vrai que j'avais pas prévu le dessert. Et ils sont tous là, ouais, y a pas un dessert, là? Je dis, ouais, je sais pas, écoute, j'ai des yaourts, si tu veux. Ils étaient là. Ah ouais, d'accord. Je dis, mais bon, enfin, je sais pas, moi, c'est très bien, un yaourt, quoi, c'est quoi le problème? Et c'était là, je sais pas, t'as pas un petit gâteau, une petite sucrerie, un truc. Et puis j'hallucinais, j'étais là, mais vous avez vraiment besoin de ça, quoi? Enfin, je sais pas. Puis ils étaient là, t'as pas de l'eau gazeuse, t'as pas un coca, t'as pas un truc. J'étais là, bah non, en fait, c'est pas un restaurant ici. Mais donc, je dois peut-être passer un peu pour un ranin, mais c'est juste, j'en ai pas besoin pour moi. Non, le truc sympa que je leur ai fait un beau feu dans la cheminée. Je sais pas, c'est marrant. En fait, les gens ont besoin de tellement de trucs pour être heureux. Et parfois, je me retrouve dans des dîners où t'as des serveurs qui viennent servir à table. Ils tiennent le plat et toi, tu te sers avec eux qui tiennent le plat comme des servants. Mais ça me choque tellement. Et à chaque fois, je dis au monsieur, non, tenez-moi le plat, je vais le poser. Allez faire autre chose. Vous me tenez pas mon plat, quoi. Et oui, le monde des riches, parfois, bah, ils sont un peu déconnectés de la réalité des choses. Et j'aimerais bien que les gens apprennent à avoir un peu plus de conscience, quoi. Bien sûr, j'aide beaucoup les enfants de l'ASE, je donne à des associations. Moi, j'ai toujours été ravi de payer mes impôts. Je suis un gamin de l'État. Je dis, je suis un pupille de la nation. Donc, les impôts, je les paye, et c'est très bien. Mais faut pas que ça devienne confiscatoire. Moi, je rêve d'un monde où quand même, le travail paye, quoi. Et vivre longtemps. Si je peux vivre 150 ans, je serais le plus heureux. D'ailleurs, hier, ça m'a fait rire. J'ai vu que l'être humain le plus vieux sur Terre s'appelle Jonathan, actuellement. Et c'est une tortue qui a 180 ans, je crois. Et ça m'a fait dire, mais j'ai envie de vivre à peu près aussi longtemps que cette tortue. Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her tap was loaded. I said my case on the room of Coca-Cola. She said fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Oh, what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do.
C'était Millionnaire avant 30 ans, un reportage d'Olivia Muller réalisé par Étienne Gracianet. C'était le troisième épisode avec Jonathan Angelov, l'attaché de production des Pieds sur Terre. C'est Valentin Rémy avec cette semaine Inès Bouffartig, Sébastien, et notre stagiaire, c'est Adèle Toquet. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand.